Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre grand journal du soir, une fois encore à domicile, mais chaque jour un peu plus près de vous quand même et de votre quotidien si singulier en ce moment. À la une de l'actualité, l'appel fort et sans détour du patron de la PHP. Nous avons besoin de renforts dans les hôpitaux, nous sommes débordés, dit Martin Hirsch. On en parle dans un instant dans votre journal, Isabelle Millet à distance. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, alors qu'Emmanuel Macron est à Mulhouse, à l'hôpital de campagne, il s'exprimera sur place précisément à 20h. J'interrogerai le professeur Lantieri, chirurgien plasticien à l'hôpital Pompidou. Que pense-t-il de la gestion actuelle de cette pandémie en France par le gouvernement? Il nous dira ce qu'il en pense, vous verrez, très honnêtement. Et puis à 19h30, restez avec nous, vous le savez, le gouvernement chamboule le droit du travail. Quelles conséquences pour vous? Vous pourrez poser toutes vos questions à nos experts en droit du travail, en droit de la famille, en droit immobilier. Est-ce que vous pouvez par exemple retarder le paiement de votre loyer, retarder le remboursement de votre prêtre, rembourser de places de théâtre que vous aviez pour ces jours-ci? On va être très concret ce soir, très pratico-pratique, vous savez, c'est mon mot. 3921 bien sûr pour intervenir. Voilà pour le programme de ce mercredi soir. Toutes les équipes sont sur le pont pour continuer à vous informer et c'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On n'a pas le matériel suffisant. On ne peut pas appliquer de façon correcte les préconisations des autorités sanitaires.
L'inquiétude grandissante dans les EHPAD. Les soignants sont démunis. Certains préfèrent même rester confinés avec les personnes âgées pour éviter de les contaminer.
L'appel de Martin Hirsch, on est dans un moment charnière. On a besoin de milliers de personnes supplémentaires auprès des malades, dit le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris.
Floriane va mieux, mais hier soir, la vie de cette policière municipale a bien failli basculer à Beauvais lors d'un contrôle pour faire respecter le confinement. Elle a reçu un pavé sur la tête. L'un de ses collègues témoigne.
Les pompiers l'ont emmené à l'hôpital pour être opéré dès son arrivée pour un œdème crânien, mais également une fracture du crâne.
25 ordonnances, c'est un record adopté pour préparer l'effort long de la France. Nous ne sommes qu'au début de la crise, dit Édouard Philippe. Le gouvernement décide notamment de chambouler le droit du travail.
L'Espagne en proie à une situation hors de contrôle. Le pays a désormais dépassé la Chine en nombre de morts et les patients s'entassent par milliers dans les hôpitaux.
Le drame, c'est que ce sont 3000 personnes qui ont besoin d'aide. Donc, il faut faire un tri parce qu'on n'a pas 3000 respirateurs.
Et on sera à Barcelone dans ce journal avec le correspondant d'Europe 1, Henri Delaguéry. La bourse de Paris a terminé ce soir en nette progression de 4,47% à 4 432 points.
Bonsoir Anissa, la couleur du ciel demain avec vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien demain, nous avons une dégradation pluvieuse qui arrive et qui va toucher le sud de la France. Nous avons toujours une France coupée en deux avec du beau temps au nord. Et vous verrez qu'au sud, ça se dégrade bien avec même de la neige à basse altitude. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et on ouvre donc ce journal par un appel à l'aide, celui de Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors que le cap des 1000 patients graves hospitalisés en réanimation est désormais franchi en Île-de-France, Simon Rubin, seule option pour espérer surmonter cette situation, réquisitionner davantage encore les personnels soignants. Et Martin Hirsch, d'ailleurs, n'est pas le seul à lancer cet appel.
Effectivement, Rémi Salomon, le représentant des médecins de la PHP, donc en Île-de-France, a lancé un appel similaire. Un numéro et une adresse mail ont été mis en place pour le personnel médical et paramédical souhaitant se porter volontaire en Île-de-France. C'est renfort au pluriel, tiré soignant au pluriel, @aphp.fr. Déjà plus de 10 000 candidatures enregistrées. Les régions touchées ont besoin de soignants. Et ailleurs aussi, d'ailleurs, parce qu'on se prépare. Un peu partout, on cible les personnes suivantes. Alors, les retraités du monde médical, mais ça c'est plutôt risqué puisqu'il s'agit d'un public fragile. L'appel a aussi été lancé aux professionnels du paramédical. Les hôpitaux de proximité sont également mobilisés pour pallier le manque de lits et de personnel des CHU. Et puis les étudiants de dernière et avant-dernière année de médecine sont mobilisés. Alors là, dans ce cas-là, c'est surtout utile là où l'épidémie est encore assez faible pour faire souffler les équipes en prévision de la vague à venir. C'est le cas par exemple au CHU de Toulouse. Parce que, bien sûr, on parle des masques, des lits, des des respirateurs, mais la grande bataille à venir pour le monde hospitalier, c'est les effectifs. Avoir assez de professionnels pour faire face, d'autant que l'afflux de patients va durer. Il ne s'agira pas de tenir un ou deux jours, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'est le grand défi à venir.
Effectivement, les précisions de Simon Rubin.
Et on va y revenir d'ailleurs hein, sur tenir sur la longueur avec le professeur Lantieri et mon invité à 18h20. On parlait dès hier soir dans ce journal de l'inquiétude grandissante face à l'hécatombe dans les EHPAD. Il est très difficile, hein, voire impossible d'avoir des chiffres, mais Europe 1 a enquêté. Une certitude, les cas de contamination, hélas, se multiplient.
Et forcément, l'inquiétude du personnel grandit, d'autant, Romain Oquet, que beaucoup ne se sentent pas suffisamment armés hein, pour faire face à cette situation.
Oui, tous les établissements n'ont pas reçu les dotations minimales préconisées par le ministre, à savoir 5 masques par lit et par jour. C'est le cas de cet EHPAD de Charente, plus aucun masque FFP2. Evelyne, infirmière, et les 18 salariés ont donc décidé de se confiner avec les résidents pour éviter toute contamination.
On n'a pas de matériel suffisant. On ne peut pas appliquer de façon correcte les préconisations des autorités sanitaires. Mais nous, sur le plan humain, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on s'engage à vivre avec nos résidents et à les protéger. Je ne veux pas être responsable d'une épidémie dans mon établissement.
Un huis clos comme un dernier recours pour tenter d'échapper au virus. Pour d'autres établissements, c'est déjà trop tard. En Île-de-France, l'une des régions les plus touchées, 20% des EHPAD hébergent des résidents contaminés. Dans le Grand Est, le virus aurait déjà pénétré dans la majorité des établissements, selon nos informations. Dans les Hauts-de-France, c'est un peu plus de 4% des EHPAD concernés et 1,5% pour la région Pays de la Loire. Un bilan probablement sous-estimé. Tous les résidents qui présentent des symptômes ne sont pas systématiquement testés, sans parler de la difficulté à confiner des personnes âgées. Une infirmière nous explique, beaucoup n'ont plus toute leur tête, ils se trompent de chambre, se baladent dans les couloirs. Forcément, on s'attend au pire.
Merci Romain Oquet. Enquête Europe 1 que vous pouvez retrouver sur notre site internet europe1.fr. Cet après-midi, Édouard Philippe a annoncé devant le Sénat qu'un pont aérien allait être mis en place entre la France et la Chine pour faire venir des millions de masques de protection.
Autre constat, lui aussi très inquiétant après ce qu'on a entendu hein, dans la bouche de Roman Oquet qui donne littéralement des frissons à hein, ce qui se passe dans les EHPAD. Nos soignants, alors on les applaudit bien sûr tous les soirs à 20h, mais ils sont de plus en plus victimes de braquages.
Et oui, partout en France, hein, médecins, infirmières, pharmaciens signalent des véhicules fracturés, leur caducée suscite la convoitise. Certains mal intentionnés semblent y voir un sésame pour circuler en plein confinement. Le personnel soignant qui est aussi de plus en plus souvent la cible de vols dans les véhicules, des vols de gel hydroalcoolique, de masques ou bien de gants.
Et les forces de l'ordre, elles sont aussi en première ligne. Elles ont parfois du mal à faire respecter ce confinement. On a appris d'ailleurs avec stupeur l'agression hier soir à Beauvais, dans l'Oise, d'une policière toute jeune, de 23 ans.
Elle a été grièvement blessée à la tête. Floriane a reçu un pavé lors d'un contrôle. Elle a dû être hospitalisée dans un état grave et opérée. Alors aujourd'hui, heureusement, les nouvelles sont meilleures. Elle a d'ailleurs tenu à faire passer un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle était prête à revenir sur le terrain quand elle irait mieux. Elle a posté une photo d'elle sur son lit d'hôpital avec un très grand pansement autour de la tête. Marion Dubreuil a joint pour Europe 1 l'un de ses collègues, Frédéric Ducoroy. Il était avec elle quand ce contrôle a dégénéré.
On avait reçu un appel pour procéder au contrôle d'un groupe d'une dizaine de personnes qui ne respectaient pas la mesure de confinement, donc avec de la musique, de la consommation d'alcool sur la voie publique. Le contrôle s'est avéré un peu houleux, hostile à l'intervention de la police. Et à ce moment-là, il y a eu un premier jet de pavé, une demi-brique, que ma collègue Floriane a pris au niveau du crâne. J'ai vu qu'elle vacillait, donc je l'ai portée, je l'ai mis à l'écart derrière une voiture pour les premiers soins. Les pompiers l'ont emmenée à l'hôpital pour être opérée dès son arrivée pour un œdème crânien, mais également une fracture du crâne. Elle le prenait sur le visage ou à un autre endroit du crâne. Je ne sais pas si elle m'aurait envoyé un message ce matin pour me dire qu'elle se sentait bien. Dans ses messages, elle est impatiente de revenir dans la police, donc là on lui a dit de se reposer, mais elle reviendra auprès de nous.
Voilà pour ce témoignage très fort. Frédéric Ducoroy, délégué local du syndicat Alternative Police, témoignage recueilli pour Europe 1 par Marion Dubreuil. Et dans ce contexte d'inquiétude et de tension grandissante, il est là, comme tous les soirs, à nos côtés pour répondre à vos questions. Bonsoir, docteur Jimmy Mohamed.
Bonsoir, Isabelle.
Alors, de plus en plus de professions s'inquiètent de la poursuite du travail alors qu'elles ne sont pas assez protégées. Cette fois, on ne parle pas d'agression, mais bien de santé. Le syndicat UNSA Police, par exemple, a appelé les policiers à ne plus effectuer de contrôle sur le respect des règles de confinement, tant qu'ils n'auront pas de moyens de protection. On a aussi entendu des éboueurs qui sont inquiets. Ont-ils raison, selon vous, et doivent-ils faire valoir leur droit de retrait ?
Alors c'est vrai qu'on peut comprendre leur inquiétude. On est dans une situation inédite, exceptionnelle, où on apprend jour après jour de nouvelles choses sur le virus. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le fait de, lorsqu'on interpelle quelqu'un pour un simple contrôle, on a un contact certes, mais qui n'est pas censé être prolongé ni trop proche, sauf s'il y a une interpellation. Et on considérait que ce risque est modéré. Alors évidemment, dans un monde parfait, s'il pouvait avoir des masques, ce serait mieux. Et en revanche, on peut se poser la question pour les éboueurs qui, eux, sont en contact avec, notamment lorsqu'on jette nos poubelles, des sacs ouverts qui peuvent être contaminés lorsqu'on jette quelque chose, des mouchoirs, il y a des sécrétions. À ce moment-là, peut-être que les éboueurs sont aussi un peu plus exposés que les autres. Ce qu'on peut au moins proposer, c'est un minimum de fermer son sac poubelle pour éviter que les particules puissent être propagées dans l'environnement. On comprend leur inquiétude, mais est-ce que le risque est si important? Il est impossible à qualifier. Donc c'est très compliqué de répondre concrètement à cette question. Est-ce qu'ils doivent faire valoir leur droit de retrait? Je ne suis pas sûr. En revanche, est-ce que certaines personnes qui ont des pathologies à risque de décompensation doivent être mis en arrêt préventif? Je pense que la question est plutôt là.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve très régulièrement, bien sûr, sur l'antenne d'Europe 1 pour répondre aux questions de nos auditeurs sur Twitter via le hashtag Radio Ouverte ou bien au 3921.
Notre pays est désormais juridiquement armé pour organiser l'état d'urgence sanitaire. Les mots d'Edouard Philippe cet après-midi même à l'issue du Conseil des ministres. Priorité de ce régime d'urgence, soutenir les soignants qui sont en première ligne. Et en deuxième lieu, éviter les ravages économiques que peut entraîner le ralentissement de l'activité.
Oui, le gouvernement qui clairement passe à la vitesse supérieure pour soutenir les entreprises, comme nous l'expliquait dès ce matin sur Europe 1 la ministre du Travail. 25 ordonnances donc prises en Conseil des ministres aujourd'hui. Elles s'appliqueront dès vendredi, Adrien Beck.
Oui, un nombre d'ordonnances assez exceptionnel pour tenter de répondre à l'urgence économique. Une partie du pays à l'arrêt, de nombreuses entreprises, notamment les plus petites, qui ne tournent plus. L'exécutif craint des faillites en cascade, d'où ce fonds d'aide d'1 milliard d'euros. Les loyers, factures d'eau, d'électricité qui pourront être reportées. Édouard Philippe l'a dit, la période s'annonce difficile pour l'économie.
Nous ne sommes qu'au début de la crise et le président de la République a demandé à nouveau aujourd'hui au gouvernement de prendre tous les moyens nécessaires dans la durée. Je le dis donc simplement aux Français, c'est un effort long que nous nous préparons et auquel nous allons tous ensemble faire face.
Et parmi les autres textes pris ce matin, la prolongation des minima sociaux pour ceux qui arrivent en fin de droit. L'exécutif fait aussi sauter des verrous sur le droit du travail avec la possibilité dans certains secteurs de travailler jusqu'à 60 heures par semaine et l'assouplissement de la règle du repos dominical. Des dispositions bien sûr transitoires qui prendront fin en même temps que l'état d'urgence sanitaire.
Les précisions d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Et dans un instant, on se retrouve donc avec notre invité, bien sûr, à 18h20. Et puis à 19h30, toutes les questions du même type que ce que vous venez d'entendre, là, ces 25 ordonnances dès vendredi. D'autres questions pratiques, vos droits, est-ce que votre employeur, parce qu'on le sait depuis hier, peut vous imposer de prendre vos congés pendant ce confinement, mais aussi si vous aviez des places de théâtre, là, ces jours-ci, est-ce que vous pouvez vous les faire rembourser? Toutes ces questions pratiques, là, qui vont trouver réponse à 19h30, n'hésitez pas donc nous appeler au 3921 et on vous répondra en direct pendant une demi-heure.
Emmanuel Macron à Mulhouse. En ce moment, le président visite l'hôpital de campagne installé par l'armée avec un masque. Il devrait s'exprimer dans la soirée et on y reviendra dans notre journal de 19h sur Europe 1.
Et le professeur donc Laurent Lantieri, chef du service de chirurgie plastique à l'hôpital Georges Pompidou à Paris dans le 15e arrondissement. À 18h20, il est mon invité. Il émet des critiques sur cette visite du chef de l'État à Mulhouse. Le président de la République qui devrait d'ailleurs s'exprimer sur place à 20h.
Emmanuel Macron qui a retweeté ce matin le témoignage d'une caissière de grande surface très émue de la reconnaissance du public pour lui dire merci et pour lui promettre de fournir masques et gel hydroalcoolique. On notera que la cote de popularité du président comme celle du Premier ministre d'ailleurs sont en forte hausse, plus 14% pour Emmanuel Macron et plus 13% pour Édouard Philippe. Et puis je vous livre Nathalie les résultats de notre enquête quotidienne avec BVA et Orange sur la façon dont les Français appréhendent cette crise collective à titre individuel. Principaux enseignements de cette septième vague, la perception de la situation cesse de se détériorer. En revanche, le moral est toujours en demi-teinte, mais s'améliore légèrement. Et surtout, le sentiment que le pire est devant nous semble commencer à s'éroder. 77% des Français en sont convaincus contre 81% il y a quelques jours. Et puis, bonne nouvelle, pour l'instant, l'ambiance au sein du foyer n'est pas un souci pour la majorité des personnes interrogées. Et vous retrouvez bien sûr le détail de cette enquête sur Europe1.fr.
Mais oui, à croire qu'on commence à s'habituer. Voilà. Isabelle, alors que le second tour des municipales a été reporté, les maires sortants voient leur mandat prolongé, de fait, même ceux qui ne se représentaient pas, obligés de poursuivre leur activité dans un contexte évidemment très compliqué.
Oui, compliqué parce qu'ils sont obligés de gérer cette crise. Ça n'est pas le moment d'abandonner. Et c'est le cas notamment dans la deuxième ville de France, à Marseille. Jean-Claude Gaudin n'a donc pas encore pris sa retraite. Et finalement, en ces temps troublés, l'ambiance politique à Marseille est assez apaisée, Nathalie Chevance.
Oui, c'est même un appel solennel qu'a lancé le maire dans une vidéo de 5 minutes postée sur les réseaux sociaux, enregistrée depuis son bureau de l'hôtel de ville.
L'heure est à l'unité, certainement pas à quelques polémiques et exploitations que ce soit.
Car voilà Jean-Claude Gaudin, 80 ans, contraint de jouer les prolongations tout en respectant un maximum de précautions, comme il nous l'a confié par téléphone.
Bien écoutez, je me porte plutôt bien, j'ai fait en début de semaine le test, mais je suis en forme, je pilote tout ce que je peux faire, je me dois de donner des explications à mes concitoyens.
Explication par exemple sur la fermeture des commerces de nuit et des marchés de plein air, pas évident à faire respecter.
Je suis passé sur le Vieux-Port. Il y avait encore 2 ou 3 étals de poissonnières. Il faudra bien qu'elles se conforment à mes arrêtés municipaux.
Et puis autre casse-tête, faut-il oui ou non instaurer un couvre-feu ?
Marseille, c'est 24 000 hectares. Mettre une signature au bas d'un parchemin en prenant un arrêté, je peux le faire à tout instant. Mais comment puis-je faire pour le faire respecter.
Alors le maire lance un appel aux bonnes idées et demande à l'opposition de jouer collectif. Message reçu 5/5 par le socialiste Benoît Payan.
Dans une période de crise, la politique politicienne n'a pas sa place. Je me suis entretenu hier avec le maire de Marseille. Je l'encourage à rester en contact avec les Marseillaises et avec les Marseillais.
Et en attendant le deuxième tour des municipales, l'heure semble effectivement à l'unité.
Le reportage de Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Depuis le confinement, les déplacements sont bien sûr limités au strict minimum et on a appris cet après-midi que l'aéroport parisien d'Orly sera temporairement fermé à compter du 31 mars, c'est-à-dire à partir de mardi prochain. Pour ce qui est des trains, après le trafic TGV qui est déjà réduit à 7%, les transports en commun d'Île-de-France vont encore être fortement réduits à partir de demain. Une cinquantaine de stations de métro fermées, métro et RER qui ne circuleront plus que jusqu'à 22h pour limiter les déplacements au strict nécessaire.
Et puis Isabelle, ce terrible constat ce soir, l'Espagne, nos voisins, l'Espagne qui désormais dépasse la Chine en nombre de morts.
Bonsoir Henri Delaguerie, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct. Bonsoir Henri.
Bonsoir Isabelle.
Alors ces chiffres sont terribles et ce, malgré les mesures drastiques qui ont été mises en place.
Effectivement, même si l'industrie n'est pas complètement à l'arrêt, il n'y a pas eu de confinement par étapes comme en Italie. Ici, d'un seul coup, le pays s'est fermé il y a 11 jours. Alors ce chiffre de 3500 morts est un nouveau coup de massue. Les hôpitaux sont au bord de l'effondrement et il y a plus de 3000 personnes en soins intensifs. Le système sanitaire ne peut pas y faire face, nous explique le médecin urgentiste Félix Dalojo.
Le drame, c'est que ce sont 3000 personnes qui ont besoin d'aide et désormais, on n'a pas ni le temps ni les moyens de les aider. Donc, il faut faire un tri absolument dur et difficile parce que on n'a pas 3000 respirateurs.
L'armée, elle, continue d'intervenir dans tout le pays. À Barcelone, des militaires ont construit un centre d'accueil pour les sans-domicile dans un hall au pied de la très touristique colline de Montjuïc. J'ai vu ce matin, sur place, des camions militaires, des tentes de l'armée, des centaines de lits construits à la hâte. L'image, je vous assure, est à peine croyable quand on sait que ce lieu accueille, par exemple, chaque année le Sonar, un festival de musique électronique. Écoutez le général Luis Martinez.
Notre unité a l'habitude d'intervenir lors de catastrophes naturelles, en cas d'incendie, d'inondation, de tempête de neige ou de séisme. Mais c'est vrai, le montage de ces tentes militaires se fait généralement hors d'Espagne. Là, c'est l'urgence qui nous guide.
Voilà, l'Espagne a commandé à la Chine pour 432 millions d'euros de matériel sanitaire. Cela comprend notamment un demi-milliard de masques et 5,5 millions de tests rapides.
Merci beaucoup Henri Delaguerie pour ce témoignage terrible en direct de Barcelone. Et puis Nathalie, plus léger, en Grande-Bretagne, l'héritier de la couronne britannique, le prince Charles, qui avait été testé positif au coronavirus, va bien. Âgé de 61 ans, il ne présente plus que de légers symptômes, nous dit-on.
Voilà pour le journal de 18h avec vous, Isabelle Millet. On va se retrouver dans 10 minutes à peu près pour un rappel des titres. Anissa, vous êtes avec nous et vous allez nous dire que demain, c'est une dégradation pluvieuse qui arrive dans le sud, c'est ça?
Oui, effectivement, hein, c'est le sud qui est le moins bien servi côté météo depuis plusieurs jours maintenant. Alors demain matin, nous aurons un temps perturbé sur les Alpes, la vallée du Rhône, le Massif central, les Pyrénées, le littoral méditerranéen et la Corse. Si vous êtes dans l'une de ces régions, demain, vous allez vous réveiller avec un ciel très couvert, avec sur les reliefs des flocons qui tombent, et puis sur le Languedoc-Roussillon de la pluie dès le début de la journée, des pluies qui vont s'étirer sur l'Occitanie et le Limousin dans l'après-midi. Attention, au bord de la Méditerranée, le Mistral se lève demain, et on sait que le Mistral, il est désagréable et qu'il rafraîchit l'atmosphère. Nous aurons des rafales à 50 km/h dans la journée. Sur le reste du pays, bah, c'est un temps très ensoleillé, hein, comme d'habitude sur la moitié nord, dans un ciel complètement dégagé. Nous avons un anticyclone qui nous protège et du coup nous n'avons aucun nuage et un soleil très généreux. Les températures, elles sont en dessous des moyennes de saison, Nathalie, avec sur la moitié nord, le Grand Est, l'Auvergne, les Cévennes, des gelées matinales, moins 1 à moins 4 demain matin, 0 à 4 degrés partout ailleurs et 5 à 6 au bord de la Méditerranée. Puis dans l'après-midi, ça baisse sérieusement, 8 à Rodez, 10 à Carcassonne et Aurillac, 12 à Paris, 13 à Bordeaux et 14 pour Marseille.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec dans un instant Nathalie Lévy, votre invitée.
Oui, appel au renfort de personnel soignant, gestion par l'exécutif de cette pandémie. Qu'en pense le professeur Lantieri, chirurgien plasticien à l'hôpital Pompidou à Paris dans le 15e? Il est mon invité dans une minute.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Nous sommes à vos côtés dans cette crise sanitaire. Et Nathalie, votre invitée est chef du service de chirurgie plastique à l'hôpital Pompidou. Vous recevez ce soir le professeur Laurent Lantieri.
Bonsoir professeur Lantieri.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Le Grand Est affronte une situation sanitaire devenue critique. Emmanuel Macron était tout à l'heure à l'hôpital de campagne, installé désormais à Mulhouse pour rendre hommage aux soignants. Une bonne action, un geste bienvenu, un déplacement bienvenu sur le terrain?
La reconnaissance du président est toujours quelque chose d'important. Cela dit, je pense qu'aujourd'hui, la symbolique de rester chez soi aurait été plus importante. Je l'ai dit, je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Il est très important de respecter ce confinement. Tant que nous n'avons pas de traitement, tant que nous n'avons pas une sécurité pour la population, je pense qu'il faut continuer. C'est ce qui est le plus important, plus même que la reconnaissance des soignants.
Vous voulez dire qu'il ne donne pas le bon exemple?
Je ne dirais pas ça, parce que je ne vais absolument pas polémiquer dans ces périodes qui sont extrêmement difficiles. Nous devons être unis, tous ensemble. Il y aura des choses qui seront dites après. Pour l'instant, les soignants souffrent, c'est vrai. Ils sont au premier rang. Il y a des médecins qui sont morts. C'est important de reconnaître l'action que font les soignants qui n'ont pas toujours été reconnus à la valeur. C'est important de voir mes amis médecins généralistes qui sont au front, mes amis réanimateurs. Je n'ai pas de légitimité pour vous parler, je ne suis pas réanimateur, et eux, ils sont au front et ils prendraient sûrement pas le temps de pour parler à la radio aujourd'hui. C'est important de les reconnaître. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est vraiment que la population respecte strictement ce confinement jusqu'à ce qu'on sorte et qu'on ait une solution pour pouvoir en sortir correctement. Peut-être que nous aurons une solution avant que la courbe ne tombe, peut-être que nous aurons un certain nombre de solutions, mais jusqu'à présent, c'est très important, les réanimations se remplissent, et pas uniquement dans le Grand Est, à Paris aussi, la situation devient très critique et très tendue.
Avant que la courbe n'arrive, vous dites, la vague, elle arrive, professeur, d'abord par le Grand Est, le pic, il est imminent, et si oui, il peut durer combien de temps?
C'est un petit peu difficile, les modélisations qui ont été faites sont très variables, et on se rend compte que ce n'est pas vraiment une vague, c'est plutôt des ondes à partir des points de cluster où il y a des concentrations. C'est-à-dire que ce n'est pas une vague qui vient de l'Est et qui va balayer la France. C'est plus les endroits où il y a une concentration de virus et de pathologies qui vont augmenter et qui vont s'étendre un petit peu. C'est plus ça qu'il faut voir comme modélisation. Et dans la mesure où, et ça je le regrette et la plupart de nous le regrettent, et l'OMS l'a demandé, nous n'avons pas assez de tests et qu'il faudrait tester beaucoup plus de personnes, Nous ne savons pas aujourd'hui, on est dans l'inconnu par rapport à l'étendue réelle de la population qui est atteinte.
On n'a pas ces tests, professeur, on n'a pas ces tests, vous le dites, et vous n'êtes pas le seul aujourd'hui. On voit que dans certaines régions, dans certains départements, il y en a des tests, comme à Marseille ou dans l'Essonne. Pourquoi n'avons-nous pas de tests aujourd'hui? Qui est responsable? L'État?
Alors, je ne vais absolument pas dire qui est responsable aujourd'hui. Ce n'est pas le moment. Il y aura ensuite très probablement un moment pour voir ce qui s'est passé dans cette crise, ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait. Ce que je vois, moi, c'est que ceux qui ont bien fait, ce sont les soignants qui se sont montrés remarquablement, que tout ce qu'on nous a dit hier sur la manière d'organiser les hôpitaux, d'organiser les soins, a volé en éclats. Ce sont les médecins généralistes qui sont partis en avant et qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Ce sont les réanimateurs et ce sont surtout dans les hôpitaux les services, les chefs de service qui ont fait chacun dans leur domaine, qui ont dirigé leur équipe pour que les choses tournent. Et ben, c'est comme ça que ça devrait être, parce que nous allons ça demain. Les responsabilités, il n'y a pas de responsabilité. Aujourd'hui, il y a un virus. Ce n'est pas une guerre. C'est une épidémie, il faut que les gens le comprennent. On n'est pas en guerre, on est en train de combattre une épidémie, ce n'est pas la même chose.
Comment, professeur Lantieri, comment les équipes vont-elles pouvoir tenir alors sur la longueur? On a vu, et vous l'avez dit, que les médecins payent un lourd tribut. Le bilan déjà s'élève à 5 soignants décédés. Comment mieux les protéger et comment les laisser leur permettre de tenir sur la longueur?
Alors, mieux les protéger, c'est la première chose, et ça, c'est vraiment le rôle de l'État de protéger les gens. On ne peut pas dire autre chose, c'est pas les médecins qui sont responsables. Et mieux les protéger, ça veut dire des masques, qu'on envoie des avions, qu'on fasse un pont aérien avec la Chine, parce qu'il paraît qu'il y a des millions de masques qui sont prêts, qu'on se débrouille pour le faire, pour protéger. Ça, c'est la première chose que tout le monde demande.
Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ils n'arrivent pas, ces masques?
Je ne vais pas.
Il ne s'agit pas de polémiquer, bien sûr.
Mais je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas. Je n'ai pas d'explication. Je pense que, comme disait Philippe Juvin, on se pose la question de savoir si on n'est pas un pays sous-développé qui est le chef de service des urgences de Pompidou, si on n'est pas un pays sous-développé de ce côté-là. En tout cas, il faut que ça soit fait et que vraiment on réponde à cette urgence. Ça, c'est la protection. Deuxième chose, ensuite, ce sont les personnels soignants, et on sait qu'on manque d'infirmières et qu'aujourd'hui, le premier problème, ce n'est pas tellement le manque de respirateurs, c'est le problème de la tension sur le personnel infirmier. Il faut voir que c'est extrêmement lourd de prendre en charge un patient qui est Covid. Il faut le retourner, il est sur le vent de réanimation. Donc, il y a un relais du personnel infirmier qui doit être fait. Ça, c'est important. Donc, il faut que non seulement les structures hospitalières publiques s'y mettent, bien sûr, et tous les personnels, on a arrêté tous les programmes, tout est arrêté, mais aussi les structures privées qui s'y sont mis aussi, qui sont parfaitement solidaires, pour pouvoir faire ces relais. Il faut avoir de la souplesse dans la gestion du personnel, parce que là, les accidents arrivent, c'est quand on est fatigué. Donc, faut pouvoir le réveiller.
Vous craignez, professeur Lantieri, qu'à terme, ces soignants, certains, ne viennent plus travailler à force de risquer leur vie chaque minute. On commence à entendre ce type de témoignage. On risque nos vies, on ne peut pas aller au-delà.
Il y a un soutien, il y a aussi non seulement des soutiens d'organisation qui sont faits. Les plus jeunes chirurgiens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de risque, vont peut-être aller aider les soignants directement en réanimation et faire des soins de base dont on a besoin, c'est des soins de nursing. Les chirurgiens, moi, les jeunes de mon équipe sont portés volontaires et c'est très bien. Il ne faut pas mettre en danger non plus les médecins qui auraient des pathologies. Il faut que ça soit extrêmement clair pour qui doit aller, qui ne peut pas y aller. Et c'est une belle solidarité du corps soignant. Et c'est comme ça qu'on tiendra le coup. De l'autre côté, d'abord, on a les moyens de protection. Et deuxièmement, les traitements, les recherches arrivent. C'est important qu'on ait des solutions et le plus rapidement possible.
Martin Hirsch a lancé ce matin un appel à la réquisition justement de personnel soignant, ce que vous disiez, et à une reconnaissance peut-être sous forme de prime pour l'effort surhumain, dit-il, des personnels face au Covid. C'est suffisant, cette prime-là dont il parle?
Oui, cette prime, elle est importante, c'est évident, parce qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'a dit M. Darmarin en disant la meilleure prime, c'est le confinement. Non, il y a aussi des problèmes d'argent. Mais en dehors du personnel hospitalier, il y a aussi les médecins généralistes. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de souplesse, en tout cas, quand ils facturent. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des médecins généralistes sur Bretagne qui n'avaient pas fait correctement leur télétransmission, qui avait été interdit de la sécurité sociale. C'est des choses qui sont, pour moi, qui n'ont aucun sens. Les téléconsultations, on vous dit que c'est à 100%. Oui, mais pas toujours dans les mêmes conditions. Il faut remplir des 250 formulaires. C'est une lourdeur. La lourdeur administrative n'a pas été relevée. Il faut quand même voir que les médecins qui sont morts, ils sont morts pour des consultations à 25 euros. Il faudra que les gens se réalisent l'investissement qui a été fait. Donc les primes, c'est bien, mais d'autres choses doivent être faites aussi.
Et donc lever cette lourdeur administrative, plus de souplesse, c'est ce que vous nous dites. Un dernier mot, car professeur Lantieri, on parle maintenant depuis plusieurs jours de la chloroquine et notamment de ses prescriptions possibles aux patients à risque. C'est ce qu'a dit Olivier Véran, accessible uniquement ce traitement pour les équipes médicales et pour les patients en état critique, je le précise. Le Conseil d'État d'ailleurs a été saisi à ce sujet, on saura demain ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous dites, vous ?
Alors, je dis qu'il faut que le professeur Raoult, quelqu'un qui est reconnu internationalement, c'est vrai que sa dernière étude qu'il a montrée n'est pas extrêmement convaincante, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, il a probablement raison. Et dans les circonstances actuelles, la question n'est pas individuellement, effectivement, dans un raisonnement normal, on ne devrait pas donner ce traitement. Collectivement, ça a peut-être une valeur, et faire ce pari de dire ben peut-être qu'il faut traiter des gens, mais surtout bien les traiter par les médecins généralistes et pas d'automédication, et voir les contre-indications, ça peut peut-être faire baisser la pression virale sur l'ensemble de la population. Et je pense que Raoult, c'est pas un gourou, c'est pas un fou, qu'il n'a peut-être pas eu la bonne communication, c'est vrai, mais je pense qu'il faut vraiment écouter ce qu'il a à dire et prendre un petit peu de recul par rapport à ça.
Prendre un petit peu de recul par rapport à ça, prudence donc, mais à ne pas rejeter globalement, c'est ce que vous nous dites, donc professeur Lantieri. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec à suivre Nathalie Lévy.
Le droit du travail modifié, Emmanuel Macron à Mulhouse, il s'exprimera depuis cet hôpital de campagne à 20h. Le besoin de renfort en personnel soignant, Martin Hirsch a lancé un cri d'alarme. On décortire toute l'actualité du jour avec nos grandes voix et avec vous au 39-21. C'est dans un instant sur Europe 1, à tout de suite.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec le rappel des titres, signé Isabelle Millet.
Et l'aéroport d'Orly qui sera temporairement fermé à compter du 31 mars, c'est-à-dire à partir de mardi prochain, en raison de l'effondrement du trafic, à la suite bien sûr des restrictions de circulation. Nous ne sommes qu'au début de la crise, c'est un effort long que nous nous préparons, a dit Édouard Philippe à l'issue du Conseil des ministres, au cours duquel 25 ordonnances ont été adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le droit du travail est provisoirement aménagé, les entreprises pourront déroger à certaines règles. Emmanuel Macron à Mulhouse cet après-midi, le président a notamment visité l'hôpital de campagne installé par l'armée. L'Espagne dépasse désormais la Chine en nombre de morts. Plus de 3400 Espagnols ont déjà succombé. Les accusations ce soir du G7 qui regroupe les pays les plus industrialisés, notamment la France. Ils dénoncent une campagne intentionnelle de désinformation de la Chine au sujet du coronavirus. Le Parti communiste chinois représente une menace importante pour notre santé et notre mode de vie, comme l'épidémie l'a clairement démontré. C'est ce que déclare ce soir le chef de la diplomatie américaine.
Et Isabelle, on vous retrouve à 19h. Un nouveau journal complet, ce sera avec vous, bien sûr, à distance, mais en direct. Une dégradation pluvieuse qui arrive dans le sud, ça, ce sont les mauvaises nouvelles d'Anissa.
Oui, effectivement, et c'est pas tout, Nathalie, puisque demain, c'est le retour de la neige sur l'Aveyron, le Cantal, le Languedoc. Nous aurons de la neige des 400 mètres d'altitude, autant vous dire en pleine, demain. Et puis au fil des heures, la limite plus neige va remonter vers 800 mètres dans ces régions. On attend un bon cumul de neige, pas loin des 10 cm de neige sur les Cévennes, à 600 mètres d'altitude. Et puis sur les Pyrénées, la neige tombe à 1000 mètres d'altitude dès demain matin. Sur les Pyrénées orientales, un nouvel épisode neigeux est attendu à 600 mètres. Cet épisode va s'estomper au fil des heures sur le sud-est. Toujours des nuages, de la pluie, le mistral qui se lève. Et puis sur la moitié nord du pays, toujours un temps anticyclonique, c'est-à-dire aucun nuage, un ciel bleu et un soleil qui brille toute la journée demain.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et on ne change pas les bonnes habitudes, même à distance avec vous, Nathalie Lévy, puisque c'est l'heure du débat des grandes voix jusqu'à 19h. Avec Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, à distance, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil, en charge de l'économie sur Europe 1. Vous pouvez leur poser toutes vos questions en direct. N'hésitez pas, ça se passe dès maintenant au 39-21, 50 centimes la minute. Tous les bénéfices sont reversés à l'Institut Pasteur. Et puis vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous.
C'est presque mon petit moment de bonheur de la journée, vous retrouver. C'est vrai, je le disais hier, mais voilà, je tiens parole et honnêtement, je suis ravie. Alors, on va commencer ce soir avec l'information que nous livrait Isabelle Mille il y a quelques instants. Emmanuel Dutheil, dans son rappel des titres et dans son journal, c'est l'aéroport d'Orly temporairement fermé là, à compter du 31 mars, donc dans 6 jours, hein, face à la chute du trafic aérien. 2 terminaux de la plateforme avaient déjà été fermés. Ça s'imposait?
Oui, ça s'impose puisqu'il n'y a tout simplement quasiment plus de trafic aérien. Toutes les grandes compagnies mondiales ont décidé d'arrêter et des compagnies très importantes pour l'aéroport d'Orly, comme par exemple Transavia, on sait c'est la low cost d'Air France, qui a décidé de suspendre là pendant quelques jours tous ses vols. Bah, à partir du moment où il n'y a plus de compagnie, il n'y a plus besoin d'avoir ces terminaux. Donc c'est fini pour quelques jours à Orly à compter de mardi prochain. Ça entre en vigueur le 31 mars. Et comme vous le disiez Nathalie, il y a également des mesures depuis quelques jours cette fois à l'aéroport de Roissy. C'est le terminal 3 qui est également un terminal d'où partent des compagnies low cost qui a été fermé, et le 2G qui est un des gros terminaux cette fois de l'aéroport de Roissy qui a également été fermé ces derniers jours. C'est un exemple quasi historique, hein. Ce n'était jamais arrivé en temps de paix comme ça qu'on doit fermer des terminaux de l'aéroport, des aéroports de Paris. Donc un signal, si on en avait besoin d'un, ouais. Que l'économie mondiale et les transports au niveau mondial sont à l'arrêt.
Bien sûr, on va revenir évidemment sur le soutien aux entreprises dans un petit instant avec vous. Je voudrais faire un tour de table virtuel en tout cas. Ève Roger, et puis d'ailleurs Michaël Darmon, vous allez pouvoir aussi réagir sur ce point. Emmanuel Macron, ce soir là, qui est arrivé à Toulouse. Alors à Toulouse, on sait ce qu'il en est.
À Mulhouse.
J'ai dit quoi?
Toulouse.
Vous voyez, c'est mon envie de soleil peut-être. Remarquez, il y a peut-être aussi du soleil à Mulhouse. Parce que évidemment, qu'est-ce qui se passe à Mulhouse? Il y a cet hôpital de campagne pour désengorger les hôpitaux du Grand Est, hein, déployés par le service de santé des armées, au pied même d'ailleurs de l'hôpital de Mulhouse. C'est une première en Europe. Emmanuel Macron, qui prendra la parole sur place à 20h. Ce déplacement sur le terrain, Ève Roger, cet hommage aux soignants après celui aux caissières, c'est la bonne chose à faire?
Je pense que je ne sais pas si c'est pour les soignants, c'est évidemment pour eux, mais c'est aussi pour l'organisation de l'Agence régionale de santé du Grand Est qui multiplie les possibilités pour désengorger. Il y a quand même 3 hôpitaux, Mulhouse, Colmar et Strasbourg. Mmh. Et voyez, il y a le TGV médicalisé, il y a cet hôpital de campagne, il y a la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg où des patients vont être envoyés. Donc ça veut dire que la région déploie des énergies folles pour ne pas arriver là où personne ne veut arriver, c'est-à-dire à trier les patients. C'est-à-dire que là-bas, il y a peu de respirateurs sans doute, et qu'on multiplie toutes les possibilités pour permettre à chacun de pouvoir être soigné. Et ça, c'est formidable, et je pense que c'est ça qu'Emmanuel Macron va souligner.
Emmanuel Macron qui va souligner ça sur place, mais avait-il besoin de se déplacer, Michaël Darmon? Là, je vous interpelle parce que vous avez peut-être entendu tout à l'heure mon invité, le professeur Lantieri, de l'hôpital Pompidou à Paris, dans le 15e, qui disait c'est quand même pas la bonne chose à faire. Ok, le soutien, c'est une chose, mais d'abord, l'exemple, c'est de rester confiné, y compris le président doit donner l'exemple en substance. Hein.
Alors, en l'occurrence, l'exemple qu'il doit donner, puisque le président Macron a choisi de filer la métaphore guerrière, c'est d'être évidemment, de montrer qu'il est en première ligne. Ce qui s'est passé aujourd'hui et les images que l'on voit et qui défilent en voyant le président de la République avec un masque, c'est du jamais vu. On est dans une logique de déplacement sur un théâtre de guerre, comme lorsque on voit des présidents de la République qui se déplacent sur les théâtres d'opérations extérieures pour aller soutenir les soldats. En l'occurrence, on est aussi d'ailleurs au cœur du dispositif militaire, puisqu'il s'agit d'un hôpital de campagne. Il est chef des armées. Ce sont les armées qui déploient aujourd'hui des moyens considérables pour venir en aide
Sauf qu'aujourd'hui, ce que les soignants attendent, ce sont des moyens, des masques et des tests.
Bien évidemment, ils attendent cela. Ils attendent également de la marque, je veux dire, de l'implication du plus haut niveau de l'exécutif. Et Emmanuel Macron, il fait son métier de président, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il doit montrer effectivement qu'il est là. Il doit faire cela pour tenter aussi peut-être, si je puis dire, de masquer eh bien quelques lacunes, les carences, les impéricies, les polémiques, le stress. Ah oui. On me disait encore aussi à un niveau assez élevé l'exécutif tout à l'heure que effectivement le stress c'était de l'approvisionnement, de la logistique et de tous les moyens de base en ce qui concerne justement les masques et tout le matériel de ce point de vue-là qui manque et on le sait. Donc il est dans cette logique-là où la scénographie aujourd'hui...
Franchement, Michael, quand même... il risque d'être attendu fraîchement, d'être reçu fraîchement, oui ou non, sincèrement.
Bah pour l'instant, d'abord, il n'est pas dans une logique de bain de foule. Hein. On voit bien qu'il est arrivé extrêmement... Au-delà de cela, c'est à mettre en abîme, si je puis dire, avec une fois de plus la vague quotidienne du sondage BVA avec lequel nous sommes partenaires, qui montre que de plus en plus les Français sont critiques à l'égard de la gestion par le gouvernement de cette crise, qui sont inquiets vis-à-vis de la crise.
37% seulement
se disent confiants. Voilà, de manière assez intéressante et étonnante, ils se disent confiants sur l'ambiance dans le confinement en ce qui concerne leur propre foyer. Ils voient que leur entreprise fait tout pour aussi essayer de les sauver, mais en ce qui concerne la puissance publique, eh bien, ils restent extrêmement circonspects. Donc, on voit bien qu'il y a cette gestion à pour le président de la République à gérer. D'autant plus que la journée a commencé aussi avec l'appel à l'aide
de Martin Hirsch.
On a entendu tout à l'heure le professeur Lantieri. Donc, vous voyez, on est monté d'un cran dans la dramaturgie et l'aspect dramatique de la situation que nous vivons.
Alors, juste un mot avec un auditeur qui nous appelle ce soir. Jean-Gaël, bonsoir à vous, bienvenue au 3921 avec nous sur Europe 1. Jean-Gaël, voilà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment vous sentez aujourd'hui, à la fois compte tenu de ce que nous dit le président de la République ou le Premier ministre au fil des jours, et bien entendu au regard aussi des soignants qui nous appellent au secours,
Moi, bien sûr, d'abord, je dis à tout le monde, restons chez nous le plus possible, restons chez nous. Hein. Nous, ça fait 10 jours qu'on est confinés, on n'a pas attendu l'adresse de Emmanuel Macron lundi soir. Dès le dimanche matin, on était confinés, donc restons disciplinés. Et puis, malheureusement, pour nous, citoyens lambda, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi, à part soutenir autant qu'on peut nos personnels soignants. Et puis, rester confiné, si vous voulez. Moi, c'est tout ce que je peux faire, ce que je fais aujourd'hui, ce que je peux dire, quoi, bien sûr.
Et pourtant, c'est pas simple, forcément, pour vous, parce que je crois que votre épouse attend le troisième. Super nouvelle, mais ça doit pas être facile au quotidien. Vous nous appelez d'Aix en Provence. Merci beaucoup. Et bon courage à vous avec les deux petits et le troisième qui pointera bientôt le bout de son nez et plein de bonnes choses. Merci de votre appel. Emmanuel Dutheil, on va parler des EHPAD avec Ève Roger dans un petit instant parce que là, bien sûr, on tire la sonnette d'alarme. On a vu des témoignages édifiants aussi, même de personnels qui veulent s'enfermer avec les patients, avec les résidents pour les protéger. D'abord, Emmanuel Dutheil, pour soutenir les entreprises, et on l'a entendu avec Muriel Pénicaud ce matin sur Europe 1, ministre du Travail, 25 ordonnances, un nombre exceptionnel avec un fonds d'aide aussi d'1 milliard d'euros, des ordonnances qui vont s'appliquer dès vendredi pour soutenir les entreprises. On est dans le maximum du maximum.
On est au maximum du maximum avec une formule qu'a utilisée Édouard Philippe qui est « l'urgence dicte sa loi ». C'est-à-dire que ça veut tout dire, c'est-à-dire que la situation est tellement grave, la situation est tellement inédite qu'il faut aller très fort et très vite. Et c'est vrai que là-dessus, le gouvernement agit quand même plutôt bien pour essayer de rassurer. Mais tout est en train d'exploser, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques jours, on tablait sur une prévision de recul de la croissance d'1%. Là, ça y est, tout ça, ça vole en éclats. On a eu Moody's, qui est une des principales agences de notation tout à l'heure, qui nous a dit que ce sera au moins 1,4%. Et encore, c'est du doigt mouillé. Donc effectivement, là, ce que veut faire le gouvernement, c'est avancer vite sur plusieurs points. La survie des petites entreprises, les prêts garantis par l'État, le fait de ne pas perdre les compétences, de ne pas mettre au chômage trop de gens, le chômage partiel, Muriel Pénicaud est venu le rappeler encore ce matin sur Europe 1, avec une disposition extrêmement importante hein, là pour tous les patrons qui sont en train de nous écouter et qui veulent mettre leurs collaborateurs, parce qu'ils n'ont pas le choix, au chômage partiel, mais ils font une demande et si en 48 heures il n'y a pas de réponse, eh bien ça veut dire que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes en ce moment que le gouvernement ne peut pas faire face, mais ils veulent aller dans la simplification et vérifieront bien évidemment après coup. Donc vous voyez, sur tous ces points-là, on est dans l'urgence qui dicte sa loi.
Voilà, l'urgence qui dicte sa loi. Et je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure le professeur Lantieri qui appelait quand même aussi à plus de souplesse, à moins de lourdeur aussi administrative pour les soignants, pour les médecins en ville aussi, dans cette période où si on ne remplit pas ce qu'il faut dans les temps, ce serait bien qu'on soit exempté ou en tout cas qu'on ne soit pas pénalisé. Voilà l'appel qu'il lançait lui aussi. Merci les grandes voix, on se retrouve dans un instant. Hein. Surtout, vous ne bougez pas. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est tous les jours avec Nathalie Lévy à distance. Et le débat des grandes voix, c'est également tous les jours jusqu'à 19h avec nos experts, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil en charge de l'économie à Europe 1. Ils sont tous les trois à distance, Nathalie Lévy.
Et oui, système des isolements, même confinement avec les résidents dans les EHPAD parce que le drame est là, entre 100 et 150 EHPAD déjà touchés en Île-de-France par le Covid-19 et on est évidemment avec des chiffres qui progressent constamment. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Merci de nous avoir contacté au 3921.
Il y a une catastrophe dans les EHPAD. Une catastrophe.
Vous, votre époux, pardonnez-moi juste pour qu'on comprenne bien, votre époux est résident d'un EHPAD de quelle région ?
Oui, il est dans la région parisienne et il est en EHPAD depuis 3 ans. Et il est dans une unité qu'on appelle unité protégée, réservée aux Alzheimer. Ils sont 14 et en fait, j'ai appris ce matin la mort encore de 2 résidents. C'est-à-dire que sur 14 de son étage, 4 sont décédés. Et pourquoi je sais que 4 sont décédés ? Parce que ces 4 personnes... avec qui j'avais sympathisé avec les familles de ces 4 personnes et on avait échangé nos numéros de téléphone. Donc sur 14, je sais que les 4 et je n'ai pas connaissance de, j'ai pas contact avec les autres, mais sur les 14, il y en a déjà 4 qui sont décédés. Et évidemment, je suis dans l'angoisse la plus totale en ce qui concerne mon mari. On peut pas appeler trop souvent parce que les pauvres, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je sais que j'ai la chance d'avoir mis mon mari dans un EHPAD qui ne manque pas de masques, qui ne manque pas de tenues. Elles ont des surblouses, elles ont des charlottes. Mais malgré tout, le microbe est rentré.
Le Covid est entré.
Et voilà, sur 14, 4 de partie et peut-être plus. Mais ça va être une catastrophe parce que certains EHPAD ne sont pas équipés comme celui-ci. Et quand on saura le nombre exact, je pense que ça va être très, très, très important.
Il est bouleversant, votre témoignage, Michel. Vous avez pu juste joindre votre mari, votre époux?
Mais non, pas du tout. Absolument pas.
Absolument.
Parce que mon mari est très fatigué.
Ouais,
On me dit tout le temps qu'il est très fatigué. On lui a mis le téléphone près de l'oreille, mais il ne répond pas. Ouais. J'ai la chance, on m'a dit aujourd'hui, j'ai le moral qui est remonté un petit peu parce qu'il a mangé et bu. Ce qui fait qu'il n'a pas eu besoin de perfusion, mais je suis dans l'attente. 4 sur 14, et peut-être plus parce que je ne sais pas, et on ne me dira pas parce que ça ne me regarde pas, je ne fais pas partie de la famille des autres, mais je me dis qu'à tout moment, on peut m'appeler pour me dire, et je ne le reverrai pas. C'est ça qui est dramatique,
je ne le
reverrai pas. Ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vu, je ne le reverrai pas. 55 ans de mariage. On a été super heureux et je ne le reverrai pas. Je ne le reverrai pas.
Michel,
je sais comment ça se passe. Les pompes funèbres viennent très vite et je ne sais même pas si je pourrais assister à la crémation. Moi, je suis confinée toute seule. C'est dramatique ce qui se passe dans les
EHPAD. C'est bouleversant votre témoignage, Michel. Vous vivez une situation épouvantable comme beaucoup de Français. C'est terrible et on compatit. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. On a sincèrement, j'en ai la chair de poule à vous entendre parce que c'est une situation extrême, évidemment. Oui. On espère que vous aurez de bonnes nouvelles et on pense bien à vous. Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir sur Europe 1 et évidemment, on rediffusera votre témoignage qui est bouleversant. Ce soir, on pense bien à vous et à votre époux. Mickaël Darmon, on est dans une situation extrême. On est dans une situation extrême pour les familles qui sont coupées de leurs proches, que ce soit en EHPAD, que ce soit en milieu hospitalier également, parce qu'on ne peut pas rendre visite à nos grands-parents, à nos parents, à nos enfants. On est dans une situation extrême sur le plan humain, sur le plan éthique. Ça pose des questions.
Et donc, sur le plan politique, parce que ce que vous venez de dire, d'abord, je m'associe à ce que vous venez de dire sur ce que l'on ressent à l'instant même en écoutant Michel, qui effectivement nous bouleverse et nous fait toucher du doigt ce que des milliers de familles sont en train de vivre et malheureusement vont devoir vivre, c'est-à-dire ne pas pouvoir dire au revoir à leurs proches dans les EHPAD et ne pas pouvoir les accompagner comme il le faut pour ces moments terribles. Et cela, ça sera quelque chose qui alimentera la demande puissante d'explication à la fin de cette épidémie ou quand les Français le décideront pour dire il faut que nous expliquiez ce qui s'est passé. Emmanuel Macron l'a parfaitement aussi compris ce point de vue-là. On se demandait tout à l'heure pourquoi sort-il sur le terrain. Il devrait tout à l'heure annoncer par exemple que 29 000 tests par jour vont être bientôt effectués dans les EHPAD. C'est ce qui circule donc de différentes sources de presse qui devraient certainement confirmer. Parce que la question du test, au-delà de la question de l'EHPAD, hein, effectivement, qui est évidemment en soi très particulière et très et terrible. Mais d'une manière générale, la question du test va cristalliser aussi, et on le voit dans les études très finement sur l'opinion, est en train de cristalliser le sentiment d'une attitude à deux vitesses, de Français à deux vitesses. Il y a toute cette polémique qui maintenant s'installe sur pourquoi certains peuvent tester et pas d'autres. Pourquoi ne faisons pas attention un peu plus, comme le professeur Lantieri d'ailleurs le disait tout à l'heure, à ce que dit le professeur Raoult à Marseille, dans des circonstances exceptionnelles, Didier Raoult, dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons. Cette question du test et cette question d'une attitude à deux vitesses est en train de s'installer aussi dans la société, en train de se répandre. Ce matin, sur Europe 1, on a diffusé aussi le témoignage d'une infirmière qui racontait, qui expliquait qu'on lui volait, on avait volé son, ou tenté de voler son caducé sur le pare-brise. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme étant un laissez-passer par certains. C'est-à-dire qu'il y a maintenant le sentiment que certains ont droit ou ont accès à des capacités de pouvoir être testés, voire être soignés, et d'autres non. Le télétravail également installe un sentiment pour certains, c'est évidemment pas vrai, mais de clivage entre ceux qui peuvent rester chez eux tranquilles et ceux qu'on envoie en première ligne, les caissières, les manutentionnaires, les camionneurs, pour aider les autres. De ce point de vue-là, il faut faire très attention parce qu'il y a par exemple un hashtag qui commence à se répandre aussi sur les réseaux, hashtag « ils savaient », et qui est en train de rassembler, et ça c'est évidemment très grave, de rassembler les tentations complotistes.
On va y revenir, si vous le voulez bien, si on a le temps, et sinon ce sera demain évidemment avec vous, Mickaël Darmon, mais je voulais finir sur la question des EHPAD, tragique, on l'a entendu, Ève Roger, avec ce témoignage de Michel, incroyable, j'en ai encore la chair de poule, hein, pour tout vous dire.
C'est terrible.
On a su, à l'instant qu'Emmanuel Macron allait prendre la parole là ce soir à 20h depuis cet hôpital de campagne de Mulhouse, donc rien à voir, mais encore un mot peut-être sur ce qui se passe là à l'heure actuelle dans les EHPAD.
Alors, c'est terrible ce qu'on a entendu, c'est effrayant, et c'est effrayant d'autant plus qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien de morts dans les EHPAD, personne ne fait la comptabilité parce que c'est au directeur d'établissement de faire remonter les chiffres. Ils vont mettre en place une application pour essayer de savoir combien de personnes risquent de mourir du Covid-19 dans ces maisons de retraite, et je trouve que c'est la première, ne pas savoir c'est pire encore que tout. Après, sur ce qui se passe, moi je voudrais donner peut-être une note d'espoir. C'est-à-dire que Olivier Véran, samedi, a promis 500 000 masques pour les maisons de retraite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les régions les plus contaminées, c'est-à-dire le Grand Est et l'Île-de-France, ça risque d'être difficile, d'être trop tard. Peut-être pour les autres régions, dans les EHPAD des autres régions, parce qu'il y en a aussi, peut-être que enfin, l'arrivée de ce matériel, de ces outils, de ces charlottes, de ces surblouses, etc., pourra permettre de limiter la casse. Et ça, c'est important. Il faut garder espoir, parce que quand les personnels auront ces outils à disposition, peut-être que ça pourra quand même un peu mieux se passer, qu'on pourra un peu éviter cette catastrophe qui est annoncée.
Ouais, alors le tout, c'est qu'effectivement, ce ne soit pas trop tard. Et c'est ce qu'on espère évidemment de tout cœur. Et on est évidemment aussi avec ces familles qui nous contactent, à qui on donne la parole le soir au 39-21. C'est important. Exprimez-vous. Faites-nous passer vos messages. On les relaie, bien sûr. Emmanuel Dutheil, un petit peu plus loin, parce que c'est aussi intéressant de faire la comparaison ce soir et de se regarder finalement dans le miroir. On regarde outre-Atlantique, les États-Unis qui ont tardé, c'est le moins que l'on puisse dire, mais qui, quand eux, ils agissent, ils ne le font pas à moitié. Hein.
Oui, effectivement, c'est assez impressionnant, hein, le chiffre qui est sorti. 2 000 milliards de dollars. C'est quoi ces 2 000 milliards? C'est le plan de relance américain. On pourrait dire qu'ils sont tellement plus gros que la France en termes d'économie, mais quand même, nous, on est, allez, on va dire sur 50 milliards d'euros à la louche, là on a 2000 milliards. Avec des choses extrêmement symboliques, hein. Par exemple, les Américains les moins aisés touchés par cette crise vont recevoir directement un chèque à la maison. Des travailleurs indépendants qui se retrouvent au chômage à cause de ça vont avoir plusieurs mois de salaire. Les petites entreprises vont là également avoir des prêts, mais avec aussi beaucoup de choses pour l'hôpital. Mais alors, quand on regarde de toute manière le système de santé américain, c'est tellement catastrophique dans une bonne partie des hôpitaux. Il y en a bien évidemment des excellents, hein, pour ceux qui ont les moyens. Mais en tout cas, c'est un plan de relance quasi historique. En 2008, il y a eu des milliards, des dizaines, des centaines de milliards qui avaient été injectés dans l'économie. Mais là, comme ça, d'un coup d'un seul, de façon massue, avec aussi du côté du Sénat américain, le chef du Sénat du Parti républicain qui dirige le Sénat avait là aussi un discours totalement guerrier, hein, pour venir défendre ce plan. Vous voyez, il disait c'est un investissement digne d'une époque de guerre, donc partout dans le monde. Et je peux vous dire que c'est capital. Il faut qu'il s'en sorte d'un point de vue sanitaire, mais il faut qu'il s'en sorte d'un point de vue économique. Pourquoi ? Parce que c'est le troisième moteur de l'économie qui va s'éteindre. On a déjà eu la Chine qui s'est éteinte et qui ne s'est toujours pas rallumée. On a l'Europe qui est complètement à l'arrêt. Si en même temps vous éteignez les États-Unis, là vous fermez la lumière partout et puis vous attendez de voir comment ça se passe. Donc voilà. C'est capital de voir que ce plan donne un petit peu d'espoir. Alors je suis désolé, après le bouleversant témoignage de Michel, mes histoires d'économie, ça paraît complètement dérisoire, mais en tout cas les investisseurs veulent y croire, parce que vu qu'on s'était amusé à faire quasiment un point bourse tous les soirs dans ces grandes voies, on est en hausse à nouveau à Paris, 4,47. Et hier, Wall Street avait connu la plus forte hausse depuis 1933, plus de 11% de hausse, justement parce qu'il y a cet espoir que cette réponse américaine soit à peu près à la hauteur de cet enjeu majeur.
Voilà, il faut bien que le monde tourne, et c'est pour ça aussi qu'on parle d'économie chaque soir avec vous, Emmanuel Duteil, qui est spécialiste de ces questions. On va se laisser dans quelques secondes, les amis. Bah oui, maintenant c'est les amis, parce que évidemment les temps sont durs, donc la proximité, ça fait du bien aussi. Emmanuel Macron à Mulhouse, là, dans cet hôpital de campagne, là, ce soir, Michaël Darmon, il va, on l'a dit, rassurer les soignants, il va peut-être annoncer des choses, est-ce qu'on sait ?
Alors, il devrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux EHPAD, annoncer donc 29 000 tests qui seront donc effectués pour répondre effectivement à cette urgence. Il y a également une autre annonce qui apparemment se prépare concernant les soignants, c'est-à-dire la création d'une unité de soutien psychologique pour les soignants. On voit bien que, étant donné qu'il est chef des armées, qui se déploie aujourd'hui, qui s'est déplacé sur un hôpital militaire dans le Grand Est, bien évidemment, les paroles seront en direction de ces personnels. Mais on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des confirmations sur ce qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire les dates de confinement, la prolongation et des explications aussi supplémentaires par rapport à cet effort très long auquel les Français doivent se préparer, tel qu'Édouard Philippe l'a annoncé à l'issue de ce Conseil des ministres exceptionnel, qui aussi a vu les ordonnances, l'économie de guerre se mettre en place aujourd'hui, et avec plusieurs dispositifs législatifs chamboulés, notamment le droit du travail.
Évidemment. Et c'est équipé d'un masque, hein, que le président de la République est arrivé.
Image absolument exceptionnelle et qui montre bien
tout à fait
effectivement la
situation de crise qu'on traverse à l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse. Donc merci beaucoup les grandes voix, Ève Roger, Emmanuel Duteil, Michaël Darmon, et les témoignages de nos auditeurs incroyablement bouleversants. Notamment, on pense très fort à Michel ce soir et à vous tous, hein, qui nous appelez et qui vivez vous aussi des situations ubuesques, dramatique parfois. Merci à tous. L'info qui revient avec le journal complet dans un instant d'Isabelle Millet. Nous serons donc à Mulhouse pour suivre Emmanuel Macron, qui s'exprimera dans maintenant une heure.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Oui, avec l'interview politique dans 10 minutes, Aurélie Herbemont reçoit ce soir le président de la région Sud, Renaud Muselier. Ensuite, demain en France et demain dans le monde. Puis à 19h30, vous avez des questions très concrètes. Pouvez-vous payer votre loyer plus tard ? Repousser votre remboursement de prêt ? Qu'est-ce que ces nouvelles ordonnances vont changer dans le droit du travail ? On va vous livrer toutes les réponses possibles, le plus clairement possible, avec nos experts au 3921 et sur les réseaux sociaux. Hashtag Radio Ouverte. Soyez au rendez-vous à 19h30. On vous aide autant que possible.